faire une... Ça remarche de nouveau plus? Faut que je le mange alors. Mais est-ce que le son va être bon? Non, il va pas être bon? Je veux dire, dans l'enregistrement. Parce que la dernière fois, c'était une catastrophe. Bon. Je vous invite à faire une lecture dans Job 7, verset 17. Job 7, verset 17. Et je vais vous lire dans la parole de Dieu de la version, la TOB, la traduction œcuménique de la Bible. Verset 17. Qu'est-ce qu'un mortel pour en faire un si grand cas, pour fixer sur lui ton attention? Amen. Frères et sœurs, on est encore ici-bas, dans cette condition mortelle. On est venu un jour, on repartira, mais pour le moment, on est là. Hein? On est là, et chaque jour nous rapproche de ce grand but, vivre avec un corps glorifié, débarrassé de toute limitation, et débarrassé surtout définitivement du mal, c'est-à-dire de ce que Dieu n'aime pas. En fait, Dieu nous a envoyés ici-bas pour mener une guerre finale contre le mal et son instigateur. Et nous sommes dans un combat. Et quand ce combat sera terminé, eh bien, tout ce que Dieu n'aime pas sera détruit, éliminé. Et il n'y aura que ce que Dieu aime, et tout ce qui est bon, et tout ce qui est agréable, et tout ce qui est beau. Et tout. Et ça, c'est ce qu'on appelle le paradis. Mais je vais vous parler d'autre chose encore un peu ce matin, au fait, au sujet du paradis. Quelque chose qui va peut-être vous étonner. Dans le monde futur, nous n'aurons affaire qu'avec Dieu. Nous ne connaîtrons ni pensée, ni plaisir qui soit étranger à la gloire de Dieu. Rien qui soit étranger à son amour. Alors, pour le temps qui nous reste à vivre ici-bas, je pense que nous devrions prendre une décision. Là, on arrive à la fin de l'année. Et à Nouvel An, en général, on prend des grandes décisions. Chaque année, je prends la grande décision. Ça y est, cette année, c'est fini. Je ne mange plus de cornichons. C'est important, hein? Et je vous promets, chaque année, je dis ça. Mais chaque fois, je retombe dedans. J'aime tellement les cornichons. Non, nous devons prendre des grandes décisions. Grandes décisions. Commençons, mes frères et sœurs, prenons la décision de commencer dès ici-bas notre vie céleste. Prenons cette décision. Dieu sera le seul servi, il n'y aura pas d'autres, il n'y aura pas de tromperie. Et ce qu'il faudrait, c'est que nous comprenions que Dieu seul doit être l'objet de notre adoration et de notre affection. Il faut prendre cette décision, que Dieu seul soit l'objet de notre adoration et de notre affection. Que lui seul soit l'objet et la fin de toutes nos actions. Dieu a tout fait, la Bible nous dit dans Colossiens, pour lui-même, et il nous a créés à son image afin que nous ayons avec lui une relation privilégiée. C'est en cela que nous sommes le couronnement de sa création. Il nous a révélé qu'il est notre Père, et quand on pense au mot Père, il y a l'idée de famille. Et je dirais même que Dieu, en employant ce terme, a émis le désir d'une familiarité. La familiarité avec Dieu. Oui, elle est possible, la familiarité avec Dieu, parce que quand on est avec Dieu, qu'on connaît qui il est, ses principes et tout ça, eh bien la familiarité ne peut pas déraper, elle ne peut pas être mauvaise. Parce que la familiarité, elle n'est mauvaise qu'avec les gens qui n'ont pas d'éducation. Vous avez remarqué ça? Vous donnez à quelqu'un qui n'a pas d'éducation déjà le pouvoir de vous dire tu, il se croit tout permis et il va commencer à être désagréable. Ça vous est jamais arrivé? Bien sûr, la familiarité. Ils se mettent à nous manquer de respect. La Bible, entre autres, est un livre de savoir-vivre en présence de Dieu. Ce saint livre, il nous apprend que nous n'avons pas toujours été saints. Et il nous rappelle que nous étions pécheurs et que même si Dieu aujourd'hui nous regarde au travers du sang de Jésus, au travers d'un filtre qui fait qu'il nous voit purs, nous ne devons pas oublier que nous avons été très offensants. Très offensants. Et se souvenir doit nous obliger à l'humilité dans notre relation avec Dieu. On ne peut pas se permettre d'être avec Dieu comme avec un copain. Bien qu'il veut une familiarité, pour lui c'est très désagréable de nous voir arriver toujours avec cette espèce d'attitude de fausse humilité ou alors de crainte sincère, mais qui n'est pas justifiée. Dieu nous a purifiés de tout péché, c'est vrai. Donc voilà, maintenant nous pouvons nous présenter devant lui avec une grande liberté, mais quand même il faut se souvenir que on n'a pas toujours été correct et qu'il faut qu'on soit dans l'humilité. Alors c'est vrai que Dieu est une majesté infinie, mais en même temps il est aussi une infinie bonté. Oui Thierry, c'est gentil de leur dire de s'arrêter parce que sinon c'est moi qui vais être obligé de leur dire et ça me gêne beaucoup. On dirait qu'ils sont mal élevés, pourtant je connais leurs parents, mais on dirait qu'ils sont mal élevés. Nous devons nous souvenir qu'en lui se trouve la plus haute souveraineté qu'on puisse concevoir et qu'en même temps, il est l'ami le plus affectueusement attaché qui soit. Ça fait des extrêmes, hein, ça semble bizarre. Et je suis frappé que ce Dieu créateur de l'univers s'adresse à nous comme nous pouvons le lire dans Ésaïe. Je vais vous lire le texte d'Ésaïe, Ésaïe 66, toujours dans cette parole dans la tobe, Ésaïe 66, versets 10 à 14. Écoutez ça. J'ai appelé, en effet, et nul n'a répondu. J'ai parlé, et ils n'ont pas écouté. Ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, ils ont choisi ce qui ne me plaît pas. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui tremblez à sa parole. Vos frères vous haïssent et qui, à cause de mon nom, vous excluent, ont dit, et ceux qui, à cause de mon nom, vous excluent, ont dit que le Seigneur donc montre sa gloire et que nous voyons votre jubilation. Mais ce sont eux qui seront dans la honte. Une voix de rumeur depuis la ville, une voix depuis le temple, c'est la voix du Seigneur, il paye un retour à ses ennemis leur traitement. Oui, ben je crois que je me suis trompé, c'est pas ce texte-là, excusez-moi, c'est pas du tout ça. Je suis troublé parce qu'il y a des gens qui font les clowns devant moi et c'est très difficile de parler de choses sérieuses en voyant des gens qui gesticulent et qui rigolent et qui font les clowns. Je crois qu'on va supprimer tous les rangs derrière là, ça obligera les gens d'être un peu plus devant et d'être peut-être un petit peu plus respectueux. Hein? Dès la semaine prochaine, on supprime tous les rangs qui sont dans le fond. Et voilà, ça sera vide au fond, mais comme ça les gens seront... Il y a plein de places vides là où ils seront peut-être un peu plus dans la lumière et obligés d'être respectueux. Excusez-moi, je suis un peu troublé dans ma prédication parce qu'il y a des gens qui font l'épître derrière. Ça me déconcentre, ça me gêne. Je vais venir sur votre lieu de travail et je vais mettre aussi un petit peu le caca comme vous faites ici. Vous allez voir comme c'est gênant quand on est en train de travailler d'avoir des gens qui font les idiots et qui dérangent. Et après, on va dire que je suis dur. Après, on va dire que je suis un père fouettard. Vous êtes quoi, vous? Oui, vous qui écoutez Internet, nous avons parmi nous des jeunes qui sont désagréables, qui me manquent de respect. Oui, c'est vrai. C'est comme ça. C'est dans toutes les églises, je crois. Hein, que Dieu les reprenne sévèrement, puisqu'ils n'écoutent pas ce que je leur dis, qu'ils n'écoutent pas ce que leurs parents leur disent. Que Dieu vous reprenne lui-même et qu'il vous fasse comprendre qu'est-ce que c'est. Vous attendez de l'amour, comment voulez-vous? Vous êtes irrespectueux. Dans l'Église catholique, on a un sens du sacré que chez les protestants, on a balayé parce qu'on trouve que c'est exagéré. Mais je crois qu'on a un petit peu trop balayé le sens du sacré chez nous, les protestants. Il faut qu'on y revienne un petit peu. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour rire, et moi j'aime bien la rigolade, mais pas ici, s'il vous plaît, pas ici. C'est enregistré, ça sera mis sur Internet, à votre plus grande honte. Je ne dirai pas de nom, mais c'est quand même vraiment, vraiment désolant de voir ça encore à votre âge, que vous vous comportiez comme des gougnafiers, des vrais gougnafiers. Voilà, le père Fouettard a parlé, et ça sera comme ça tant que vous serez comme ça. Tant que vous serez comme ça, tant que vous manquerez de respect, je vous parlerai comme ça. Parce que vous avez besoin d'être corrigé Et si vous n'acceptez pas la correction, c'est Dieu qui va se charger de vous corriger. Et ça sera bien pire. Alors là, vous parlerez d'un père fouettard. Jubilez avec Jérusalem, exultez à son sujet, vous tous qui aimez Jérusalem. Avec elle, soyez enthousiastes. Oui, enthousiasmez, vous tous qui avez pris le deuil pour elle. Vous suciez le lait et soyez rassasiés de son sein réconfortant, que vous tiriez le maximum et jouissiez de sa mamelle glorieuse. Car ainsi parle le Seigneur, voici je vais faire arriver jusqu'à elle la paix comme un fleuve et comme un torrent débordant la gloire des nations. Vous serez allaités, portés sur les hanches et cajolés sur les genoux, il en ira comme d'un homme que sa mère réconforte. C'est moi qui ainsi vous réconforterai, oui dans Jérusalem vous serez réconfortés. Vous verrez. Voilà ce que Dieu dit et ce que je devais vous lire et que je n'ai pas, je me suis trompé de référence tout à l'heure à cause de mon trouble, pardonnez-moi. Je suis frappé que Dieu, le créateur de l'univers, s'adresse à nous comme cela. Je vais vous prendre sur mes genoux et je vais vous cajoler. C'est joli, non? Mes frères et sœurs, le monde est vaste, l'univers est encore plus vaste. Eh bien, il n'y a personne dans tout l'univers, ni parents, ni amis, ni frères, ni sœurs, ni père, ni mère, ni époux, ni fiancé qui vous aime plus que votre Père Céleste. Il nous a fait grâce, il nous a pardonné nos fautes, et la grâce divine, c'est un trésor qui n'a pas de prix. Le livre de la Sagesse parle de ça. Je vais vous lire dans le livre de la Sagesse. Le livre de la Sagesse, c'est un livre qu'on appelle apocryphe, c'est-à-dire qui veut dire « tenu caché ». Livre de la Sagesse 7, 13, 14. Ce que j'ai appris avec simplicité, j'en fais part sans réserve. Je ne tairai pas sa richesse, car elle est pour les hommes un trésor inépuisable. Ceux qui l'ont exploité se sont conciliés l'amitié de Dieu, recommandés à lui par les dons provenant de l'éducation. Quand nous exploitons la grâce de Dieu, cela nous rend participants à l'amitié de Dieu. Alors le mot « exploiter » a deux significations, une positive et une négative. Par exemple, on va dire « ce patron m'exploite ». Là, c'est négatif, c'est-à-dire qu'il profite d'une façon exagérée. Mais il y a aussi une signification positive. Le mot « exploiter », là, signifie aussi « accomplir ». Alors, « exploiter », vous verrez dans le dictionnaire, « exploiter la grâce de Dieu », c'est la faire valoir. C'est-à-dire, j'ai reçu la grâce de Dieu, maintenant je la fais valoir. Je fais valoir le fait que je suis gracié, je ne me comporte plus comme avant, comme un être coupable. Et il y a donc deux significations, et c'est celle-là qu'il faut donner à ce texte, sinon c'est une horreur. Voilà pourquoi il est bon de connaître le français. Ceux qui tirent parti, c'est ça que ça veut dire, exploiter la grâce de Dieu. Ceux qui tirent parti de la gloire de Dieu, ceux qui font valoir la grâce qui leur a été accordée, ceux-là se sont conciliés l'amitié de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, se sont conciliés? Ça veut dire qu'ils se sont rendus compatibles à un intérêt qui leur était contraire. En recevant la grâce de Dieu, ils sont rentrés en harmonie avec un Dieu. On était complètement en désharmonie avec lui et on est entré en harmonie avec lui. Parce que on a cru qu'il nous graciait, on a cru qu'il nous pardonnait, on a cru qu'il nous aimait. En usant de cette grâce, en recevant cette grâce, en vivant de cette grâce, nous nous sommes placés, nous nous sommes disposés favorablement en présence de Dieu. Parce que nous avons cru que ce Dieu si grand, ce Dieu si parfait, nous a graciés à effacer notre faute parce que nous le croyons. Parce que nous le croyons au point de vivre en lui faisant confiance. Et ça, ça a disposé son cœur en notre faveur. Et alors, il nous appelle amis. Pas seulement père, mais amis. Devant lui, on était quoi? Des créatures chétives. Là, je regardais une vidéo que Francis a mise, je n'ai pas pu la regarder en entier parce qu'elle était très longue et j'étais en retard, d'un jeune homme en pleine force, extraordinaire, dans une famille magnifique. Et un jour, après avoir couru, fait du sport, il s'aperçoit qu'il a mal à une hanche. Il va faire des examens, il apprend que c'est un cancer, il n'a plus que 5 mois à vivre. Ben, ça peut arriver à n'importe lequel d'entre vous. On est chétif, on est fragile, 3 fois rien. Et là, c'est terrible. Et voilà que maintenant, nous sommes placés comme amis de Dieu. De chétif, de moins que rien, de fragile. Philippiens 2:7 nous apprend que le grand Dieu s'est anéanti, s'est abaissé jusqu'à se faire homme pour pouvoir converser avec nous. Il ne s'est pas seulement fait homme, il s'est fait nourrisson. Il s'est fait pauvre. Il s'est laissé mettre à mort par arrêt de justice, notre fameuse justice. Et pour qu'on se souvienne de lui, il se compare à un bout de pain, à une gorgée de vin. Le grand Dieu de l'univers. Il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure avec moi et moi je demeure avec lui. Quand je pense à ça, quand je pense à ces choses, je suis un peu comme David qui disait, mais enfin bon, c'est énorme, pourquoi est-ce que tu... On dirait que tu aimes que nous, quoi. Je veux dire, c'est extraordinaire que tu fasses tant de cas de nous. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Non, ce n'était pas David, c'était Job qui disait ça. Et qu'est-ce que Dieu pour que nous ne l'aimions pas? Hein? Parce qu'on dit, nous posons la question, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et puis Dieu dit, et qu'est-ce que je suis pour que vous ne m'aimiez pas? Il est notre souverain bien. Il nous a choisis pour que nous soyons l'objet de sa tendresse. Alors, dites-lui souvent ces choses, des choses affectueuses. Dites-lui souvent, mais mon Dieu, pourquoi est-ce que tu m'aimes comme ça? Dites-lui souvent, mais qu'est-ce que tu vois de bien en moi? Mais pourquoi tu m'aimes comme ça? Est-ce que vraiment tu as oublié toutes les offenses que je t'ai faites? Est-ce que vraiment? Frères et sœurs, il nous faut affermir tous les jours et de plus en plus notre confiance en lui. Et on ne peut pas l'affermir si on n'entretient pas une relation avec lui. C'est comme entre nous. Si vous ne voulez pas avoir de relation avec quelqu'un, ben voilà, vous ne l'avez pas, puis c'est tout. Mais après, il ne faut pas vous étonner si cette personne ne prend pas soin de vous, ne vous aide pas. C'est dans la nature des choses. Nous devons tous faire un pas vers l'autre pour avoir une relation. Et pour affermir votre foi, eh bien, il faut vous approcher de lui. Alors, pour affermir votre confiance en lui, rappelez-vous souvent comment il s'est conduit, quelle a été sa miséricorde pour nous ramener des chemins où on s'était égaré, comment il a tout ce qu'il a fait. Rappelez-vous comment il a mis tout en œuvre, tout son cœur, pour que là où vous étiez perdu, vous soyez retrouvé, comme cette brebis qui était prise dans les ronces, puis qu'il est allé chercher. Dans la parabole, nous étions tous dans des ronces. Et puis, craignez de le traiter avec légèreté, oubliant qu'il est Dieu, oubliant qu'il est le Tout-Puissant. Craignez de lui déplaire. C'est ça que ça veut dire, ayez la crainte de Dieu. Craignez de lui déplaire. Je vais vous dire, rien ne lui déplaît plus que le manque de confiance. Pour lui, c'est un manque de respect terrible. Vous voulez réjouir son cœur de père, vous voulez réjouir son cœur d'ami, alors n'attendez pas demain, allez à lui aujourd'hui. Aujourd'hui, dans toute la mesure qui vous est possible d'atteindre, avec la plus grande confiance. Il a toujours les marques dans ses mains. Quelles marques? Alors on pense les marques de ses clous. Ben Ésaïe nous dit pas ça. Ésaïe 49:16 nous dit, voici, c'est Dieu qui parle, j'ai gravé ton nom dans la paume de mes mains. Et nos mains, on les voit tous les jours. Et tous les jours, quand il regarde ses mains, il voit ton nom qui est gravé dedans. La cicatrice des clous, ça a formé ton nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il ne perd jamais de vue le bien qu'il a à te faire. Alors, pourquoi trembler? Pourquoi avoir peur? Pourquoi se soucier? Le souci de te défendre, c'est lui qui l'a, le souci. Le souci de te défendre est toujours présent à sa pensée et il ne peut pas se distraire de cette pensée-là. David avait bien compris ça, c'est pourquoi il s'est écrié « Seigneur, ta bienveillance me couvre comme un bouclier. » Psaume 5, verset 13. « Qui pourra te nuire, sinon toi-même » C'est toi qui prends les mauvaises décisions. C'est toi qui manques d'humilité. C'est toi qui te comportes n'importe comment avec ton Dieu. C'est pas lui. Lui est bon, il est gentil, il est miséricordieux. Mais si tu te comportes mal avec lui, doucement, elle se retire. Une colombe, on a mis le signe de la colombe ici. La colombe, c'est une des images de l'Esprit de Dieu. La colombe, savez-vous qu'elle n'a pas de bile? Elle ne se met pas en rogne, simplement elle s'en va. Ça ne va pas, elle s'en va. Elle laisse tomber. Ben Dieu est comme ça, tu ne l'aimes pas, ben il te laisse. Aie foi. Par-dessus tout, avive ta confiance en pensant au don que Dieu t'a fait en Jésus-Christ. Pense-y, imagine-toi la chose, pense à ce qui s'est passé, ferme tes yeux puis vois la scène, vois comment il a souffert pour toi, tout ce qu'il a fait, le prix qu'il a payé pour toi et réfléchis, ressens même des émotions à ce sujet-là. Imagine, ça va te donner plus de confiance en lui. Aie foi en lui, foi qu'il ne te refusera aucun bien. La Bible nous dit qu'il nous a donné son Fils et qu'avec son Fils, il nous a tout donné. Romains 8, 32, pour ceux qui veulent la référence. Il nous a tout donné, veut dire, il nous a même donné les difficultés afin que nous en soyons vainqueurs et que nous en sortions grandis, parce que c'est ça qu'il veut. C'est que nous avons quitté le ciel pour venir ici-bas afin de passer par des épreuves en glorifiant Dieu. Et nous retrouvons grandi lorsque nous retournerons vers notre Père. On ne va pas retourner vers notre Père comme on est parti, on va retourner vers notre Père grandi. Mais si on passe les épreuves, si on ne les passe pas, eh ben on risque même de perdre le peu qu'on avait quand on est arrivé. Jésus-Christ trouve ses délices parmi nous. On trouve ça dans Proverbe 8, 31. Mais encore faut-il que nous l'honorions par notre foi active. Quand je lis le Proverbe 8, 31, où il est dit donc que Dieu trouve ses délices parmi nous, je me dis qu'en fait, nous sommes plus que son temple, nous sommes son paradis. Nous sommes en Christ, c'est ça notre paradis, et il est en nous, c'est ça son paradis. Dieu vous aime, aimez-le. L'amour, c'est une histoire à deux places. Ses désirs sont d'être avec vous. Alors mettez vos délices de rester avec lui. À passer votre vie entière avec lui. En disant pas, oh, je vais passer ma vie, mais si vraiment ça se gâte, alors là, je laisse tout tomber. Non. Inconditionnel. Tu mets tes délices à vivre avec moi, je vais mettre mes délices à vivre avec toi qui vis dans mes frères et sœurs. C'est votre foi en lui, c'est votre amour pour lui, c'est votre espérance en lui qui va faire la différence. Tout ça, ça va faire la différence entre vous, puis ceux qui n'y pensent pas, qui agissent simplement comme, la Bible dit, comme des êtres animaux, c'est-à-dire comme des gens qui ne sont pas régénérés. Prenez l'habitude de vous entretenir seul à seul avec Dieu. Familièrement, avec respect, avec confiance, avec amour, comme avec l'ami le plus cher que vous avez. Soyez affectueux avec Dieu. L'autre jour, j'étais dans ce monastère avec Marc et Kilian et je les entendais, tous ces moines, dire « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Bon, à part que ce sont des redites, mais en plus, il n'y a pas d'affection là-dedans, ça dure trois quarts d'heure. Je me dis, qu'est-ce qui doit s'ennuyer Dieu avec ça? Mon Dieu, qui doit s'ennuyer? Mais au moins ils font quelque chose, au moins ils consacrent trois quarts d'heure pour, avec ce qu'ils savent, pour s'approcher de Dieu. Nous avons reçu quand même un peu plus en lisant les Écritures, en étant enseigné. Alors, soyez affectueux avec lui. Pensez, ça, c'est extraordinaire ça pour eux. Ils ont ça que nous n'avons plus beaucoup chez nous. La contemplation, ils contemplent une scène, ils lisent un texte, par exemple le texte de la, de Jésus qui parle avec la Samaritaine, et ils y pensent, ils y réfléchissent, ils imaginent, ils se font comme un cinéma, ils voient la scène, ils entendent les voix des personnages, ils ressentent le vent, ils ressentent les odeurs et tout, ils se plongent là-dedans, ils s'immergent là-dedans, et ça c'est une bonne chose. Mais ils ont des bonnes choses, ils ont des mauvaises choses, comme nous d'ailleurs. Il faut prendre tout ce qu'il y a de bon. Mais en tout cas, il ne faut pas commettre la grande erreur. La grande erreur, c'est quoi? C'est le grand péché. Le grand péché, c'est quoi? C'est la défiance. Moi, j'ai entendu le mot défiance pendant des années, et je pensais que la défiance était le contraire de la confiance. Mais pas du tout. C'est pire. La défiance, c'est la crainte d'être trompé. Vous saviez ça? Tu savais ça, Simone? Moi, je ne savais pas. Et pendant des années, j'ai cru que la défiance, c'était simplement le contraire de la confiance. Mais non, c'est pire. C'est la peur, la crainte d'être trompé. J'ai eu l'occasion de parler avec les plus grands serviteurs de Dieu que la terre a porté à notre époque, Raphaël Duval, T.L. Osborne, Vikram Seth, d'autres encore. Et ils m'ont tous dit à peu près la même chose, avec leurs mots. C'est que dans les épreuves de la vie, ils ont trouvé leur meilleure et leur plus solide consolation à s'entretenir amoureusement avec Jésus. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, avec affection. Trouver notre consolation dans une relation affectueuse avec lui. Alors qu'est-ce que je vous demande, en particulier à vous qui êtes là à la chapelle, à vous qui êtes de la communauté, à vous qui êtes sur internet ou qui regardez le film, qu'est-ce que je vous demande? C'est que, sans négliger vos occupations, sans négliger vos devoirs, eh bien, vous vous comportiez avec Dieu comme vous agissez avec les personnes que vous aimez et qui vous aiment. Lui, il est toujours avec vous et même en vous. Et en lui, nous avons la vie, en lui, nous avons le mouvement, en lui, nous avons l'être, Actes 17, 18. Alors, souvenez-vous, Dieu désire vous voir, vous rencontrer et que vous le traitiez sans cérémonie, que vous lui parliez de tout, de vos affaires, de vos plaisirs, de vos joies, de vos projets, de vos ennuis, de vos craintes, de tout ce qui vous intéresse, sans cérémonie. L'essentiel, ce qu'il veut, et ils sont les cœurs, c'est que vous le fassiez avec votre cœur, vraiment, sincèrement, avec affection. Et le secret, c'est quoi? Le secret. Le secret de la vie chrétienne, le grand secret, c'est que Dieu ne parle pas à l'âme qui ne lui parle pas. Ça, c'est terrible. Hein? Dieu ne parle pas à l'âme qui ne lui parle pas. Dieu appelle les inconvertis. Il les appelle, il leur parle, jusqu'à ce qu'ils viennent. Mais une fois qu'on est venu, une fois qu'on est avec le Seigneur, si vous ne lui parlez pas, comme je vous ai dit, de lui parler avec affection, avec confiance, avec respect, humilité, mais avec familiarité aussi. Si vous n'entretenez pas cette relation avec lui, il ne vous parlera jamais. Alors vous aurez une philosophie chrétienne, vous aurez une religion, vous aurez des principes doctrinaux, mais ce n'est pas Dieu qui vous parlera, c'est juste la mémoire de ce que vous aurez appris qui vous rappellera des choses. Mais ça ne sera plus Dieu. Il faut s'habituer à avoir une conversation avec Dieu. Quand on médite sur le cantique des cantiques 8-8, et il y a beaucoup de versions de ce cantique 8-8, il n'est pas simple. On s'aperçoit qu'il y a des frères qui s'inquiètent au sujet de leur petite sœur qui ne sait pas encore parler. Ça dépend des versions. Cette petite sœur, elle n'a pas encore atteint la plénitude de son mystère. Elle ne sait pas encore qui elle est. C'est comme un enfant, il ne sait rien, il ne sait pas ce qui se passe dehors, il ne sait pas ce qui se passe dedans, il ne sait rien, il est là. Eh bien, c'est un peu le cas des enfants de Dieu qui sont immatures, qui ne veulent pas grandir, qui veulent rester des éternels gamins, qui ne sont pas encore formés, qui ne parlent pas avec leur Dieu. Ils n'ont pas encore la connaissance de ce qu'ils sont. Ils ne s'adressent pas à Dieu et leur cas est inquiétant. Il inquiète les frères. Dans une version autre que la seconde et autre aussi que la Tob, il est dit « Notre sœur est encore une enfant dans mon amour. Comment ferons-nous pour lui parler si elle ne comprend pas ?» Pourquoi ne comprenez-vous pas votre filiation? Pourquoi n'avez-vous pas confiance? Pourquoi ne comprenez-vous pas que vous pouvez faire confiance à votre Dieu? Il ne sait plus comment vous parler. Il ne sait pas comment vous parler. Alors, ne sachant pas comment vous parler, à vous qui êtes né de nouveau, mais qui n'entretenez pas une relation avec lui, qui ne priez pas, qui n'avez pas cette relation fraternelle, cette relation filiale, cette relation de respect, mais de familiarité avec lui, ne sachant pas, puisque vous ne lui parlez pas, ne sachant pas comment s'adresser à vous, alors il se montre comme un maître, un père fouettard, voilà. En tout cas, c'est vous, immature, qui le voyez ainsi, un maître dont la colère est redoutable, parce qu'il ne sait pas comment faire autrement, parce que vous n'entretenez pas de relation avec lui. On est vraiment créé à son image. Il ne sait plus comment faire avec vous, alors ben c'est commandement sur commandement, précepte sur précepte, et de temps en temps un bon coup de gueule, il vous engueule, et puis voilà, puis vous dites, oh, c'est un père fouettard, Dieu. Ben oui, c'est comme ça que la plupart des gens voient Dieu. Mais dès que vous l'aimez, dès que vous cherchez à le comprendre, dès que vous vous mettez à avoir du respect pour lui, ben tout change. Il veut être traité comme l'ami le plus affectionné. Et il veut que nous soyons à l'aise avec lui, que nous lui parlions souvent et que nous lui parlions de façon familière. Pas, quelle horreur, si par exemple ton fils venait vers toi en disant « Oh père, je te demande aujourd'hui de me conduire à l'école parce que je n'ai pas d'autre possibilité. Je te demande vraiment de, dans ton amour infini. » T'es malade mon fils, t'es dingo, non, mais parle-moi normalement. Ben c'est ça avec Dieu. Bon, c'est vrai que nous lui devons toujours un grand respect, mais il veut que nous lui parlions comme à notre meilleur ami, comme à notre père, en toute confiance. Alors que dire? Dieu se trouve partout, c'est vrai, il est omniprésent, Dieu se trouve partout, mais il a deux sanctuaires préférés, deux endroits préférés. L'un c'est le ciel et l'autre c'est sur la terre. Pourtant l'univers est grand, et quand on voit la terre, c'est pas grand chose, En ce moment, tout le monde parle de la comète Isson, je ne sais pas comment on l'appelle. Et il y en a beaucoup qui tremblent avec ça, qui ont peur. Et ils nous montrent des photos de l'univers avec la Terre. C'est tout petit, qu'est-ce que c'est que la Terre? C'est tout petit. Pourtant, Dieu, il a le ciel, et puis sur la Terre. Du ciel, depuis le ciel, il communique avec son sanctuaire terrestre, c'est-à-dire avec les âmes humbles dont il est aimé. Dans Ésaïe, il dit qu'il habite avec le cœur contrit, c'est-à-dire repentant, et avec l'esprit humble. Il habite avec l'esprit humble. Ça veut dire qu'il n'habite pas avec celui qui n'a pas cette humilité. Et s'il n'habite pas avec, correspond par SMS, je ne sais pas. Alors ne restez pas seul. Ayez foi en Dieu, votre Père, votre ami. Ne restez pas seul. Pensez qu'il est là. Ne vivez pas avec la pensée qu'il n'est pas là. Ayez conscience de son amour pour vous. Attendez-vous avec foi à un miracle pour vous. Tant que vous ne vous y attendez pas, ça ne peut pas vous arriver. Que Dieu vous bénisse. Jésus, je te prie d'aider chacun et chacune et moi-même aussi à entretenir toujours une bonne relation avec toi. Merci Seigneur parce que tu ne fais pas, quand tu dis que tu veux une bonne relation avec nous, tu ne l'exiges pas, tu la désires. Et je te prie Seigneur Jésus que nous sachions répondre à ton désir et que nous puissions entrer en communion avec toi et que nous puissions, comme des petits enfants, comme Titi tout à l'heure, et monter sur mes genoux. Et j'ai fait des câlins. Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous puissions monter sur tes genoux et que tu nous câlines, que tu nous fasses du bien, que tu nous réconfortes, que tu nous consoles, que nous ayons une relation affectueuse avec toi et que nous cessions d'être des gens avec un cœur sec, mais que nous soyons des gens avec un cœur aimant, affectueux. Merci Jésus. Amen. Amen. Excusez-moi encore pour tout à l'heure, mais je pense que c'était nécessaire. Une fois une chose, deux fois, trois fois, puis après, la Bible dit, reprends-les devant tous afin qu'ils en éprouvent de la honte et que les autres en éprouvent de la crainte. Ça veut dire, s'il l'a fait avec eux, il faut que je fasse attention qu'il ne le fasse pas avec moi. C'est ça que la Bible nous dit de faire. Alors, une fois, deux fois, dix fois, ben après, il y en aura le bol. Hein. Vous m'avez compris, vous m'aimez toujours ? Dieu vous bénisse, je savais. Alors, merci.